Bonjour, bienvenue sur Ça dépend de toi, balado sur lequel, à chaque semaine, on va jaser de sujets qui nous touchent tous de différentes façons, à différents degrés. C'est une belle occasion de cheminer ensemble à travers les capsules, les entrevues, les exercices que je vous proposerai. C'est une belle opportunité aussi de retrouver sa pleine puissance et de reprendre les rênes de sa vie. Je suis Sonia Tremblay, coach professionnelle de transformation, thérapeute et pédagogue. Bienvenue ici avec moi. Alors, bonjour tout le monde pour cet épisode du podcast Ça dépend de toi. Et cette semaine, ou pour cet épisode-ci, j'ai le grand plaisir d'accueillir Émilie Bien, que plusieurs reconnaîtront par, je crois en tout cas, la planificatrice. Alors, allô Émilie.
Allô Sonia, merci de m'inviter sur ton podcast.
Ben, je suis vraiment très, très heureuse. On s'est repris à quelques reprises parce que, eh bien, on n'est pas tout à fait dans les mêmes couleurs. Hein. On parlait du profil Nova
Non!
tantôt, puis moi, je suis un petit peu plus à la dernière minute, puis toi, tu es très organisée. Fait quand je suis arrivée un peu à la dernière minute parce que j'avais fait mille autres affaires, puis là, je fais « Oh, c'est vrai, il faudrait que j'écrive à Émilie, mais toi, ton horaire est pas mal plus organisé que le mien. » Alors, tu as fait « Oh là, ça marche pas. » Puis c'était excellent, c'était parfait. On ne devait pas être dû à ce moment-là.
Voilà.
Mais ouais, tout à fait. Alors, ben Émilie, comme je te disais tantôt en entrée de jeu, en fait, ben, je t'ai connue via une amie qui m'a fait connaître ton agenda, la planificatrice. À partir de ça, j'ai vu que sur ton site, tu avais des outils. J'ai utilisé ton agenda l'an dernier, toute l'année
Oui.
passée. J'ai recommandé celui pour cette année. Alors, j'ai choisi le mauve. Je le trouve très beau. Et puis, j'avais le goût qu'on aille un petit peu plus loin, en fait, que la planificatrice, dans son terme très structure, très organisée, parce que je suis tombée sur un épisode de ton podcast à toi qui s'appelle comment donc?
Le podcast 168 heures.
C'était ça. Et puis, je partais courir, puis j'ai vu ça. Ah, oh, un nouvel épisode, j'ai mis ça dans mes oreilles. Et là, je pense bien que je m'attendais à avoir des trucs et astuces. J'ai dit, ça va me faire du bien en courant d'avoir des stratégies de structure. Et là, paf, tu parlais d'autre chose. Tu parlais de manifestation. Alors, on
Oui.
va aller autant dans l'organisation que dans la manifestation. Et en fait, tu as une autre vie, toi, je crois, avant celle de la planificatrice.
Oui, une autre vie qui était sur un autre rythme complètement. Puis là, on ne parle pas de vie antérieure, là, on parle de ma vie d'il y a 5 ans, là.
Oui, c'est presque une autre vie antérieure, par contre, hein?
Oui, tellement. Donc, dans le fond, dans mon ancienne vie, comme je l'appelle moi-même, en fait, c'était avant 2018. Avant, je dirais, le début de ma trentaine, j'étais vraiment dans un rythme de vie effréné. Je me levais, je n'avais pas commencé ma journée, que j'étais déjà essoufflée par toutes les choses que j'avais à faire. Donc, dans le fond, moi, dans mon parcours professionnel, les 10 premières années de ma vie, j'ai été planificatrice d'événements professionnels. Donc, en fait, j'étais payée pour planifier et organiser la vie et les événements de tous mes clients. Puis, j'étais comme vraiment très douée là-dedans. Puis, pour vrai, ça a toujours été une passion pour moi, la planification et l'organisation. C'est juste que maintenant, aujourd'hui, je le fais différemment. Mais c'est ça, à l'époque, j'organisais et je planifiais des événements pour mes clients. Ça allait super bien. Sauf que quand que c'était rendu à moi, à planifier mon temps à moi, à planifier mes propres objectifs personnels, là, ça, je ne le faisais pas. Dans le fond, en d'autres mots, ce que je faisais, je passais mon temps à donner, en fait, je passais ma vie à donner mon temps et mon énergie à tout le monde sauf à moi-même. Donc, quand j'étais rendue à moi, mon verre était vide. À la fin de l'année, j'avais aidé plein de gens à réaliser leurs objectifs, mais moi, je n'avais atteint aucun objectif. Je faisais des grosses semaines aussi, puis je veux dire, oui, il y a le contexte événementiel qui est quand même un milieu professionnel quand même exigeant et très stressant. Mais au-delà de ça, moi, je me rends compte avec le regard extérieur que j'ai aujourd'hui que je me mettais vraiment une pression démesurée sur mon travail, en fait, alors que je ne sauvais pas des vies, là. Je veux dire, je me mettais vraiment une pression démesurée. Et tout ça a fait en sorte que c'est ça, je faisais beaucoup trop d'heures, j'étais vraiment complètement déséquilibrée, j'étais désalignée de mes valeurs et comme à un point tel que je ne savais même plus qu'est-ce qui me passionnait à ce moment-là. T'sais, je faisais tellement juste travailler et je ne faisais que nourrir ma sphère professionnelle, donc je savais plus qu'est-ce qui me nourrissait pour le reste. Ce qui fait que ben, mon corps, en fait, là maintenant, aujourd'hui, puis on va avoir l'occasion d'en parler dans cet épisode-ci, je pense, mon corps m'a toujours parlé. Depuis que je suis née, mon corps me parle, mais ça fait pas vraiment longtemps que j'ai appris à l'écouter. Donc, si on recule de il y a 5 ans, mon corps m'a envoyé beaucoup de signaux, comme quoi que ça allait pas, puis que je devais prendre une pause, puis que je devrais m'arrêter. Et non seulement mon corps m'envoyait des signaux, mais il y avait aussi ma famille et mon chum qui m'envoyaient des signaux très clairs. Et ceux-ci étaient verbales, là, pourtant, là, tu sais, c'était des signaux très clairs. Mais moi, je refusais de les écouter parce que je me disais, ben, eux sont différents de moi. Moi, je suis une machine. Je suis pas conditionnée comme les autres. Puis comme, j'étais
Oh,
beaucoup dans ce
wow!
discours-là. Ouais, j'étais vraiment dans ce discours-là, moi.
Une
Et
machine!
finalement, oui. Puis oui, j'étais fière. En fait, je me valorisais beaucoup, moi, dans ce rythme effréné-là, là. J'étais vraiment occupée. Je faisais des grosses heures. Puis quand j'avais des amis qui, elles, étaient dans des périodes plus tranquilles de leur travail, par exemple, ben, je veux dire, je le faisais pas méchamment, mais dans ma tête, je me disais, ah, ils ont moins d'ambition que moi, tu sais, ils sont, c'est ça, c'est comme si je diminuais ça, alors qu'au final, c'était elle qui avait une vie, tu sais, c'était pas moi qui avais une vie. Fait que je me valorisais là-dedans, ce qui fait que j'étais un petit peu aveugle à tout ça et j'écoutais vraiment pas ce que mon corps me disait, ni mon entourage immédiat. Donc, ben, à un moment donné, je veux dire, j'ai pogné un mur, là, littéralement, et j'ai fait un gros épuisement professionnel. Donc, si on est en 2018, gros épuisement, du jour au lendemain, j'arrête de travailler et je me sens vraiment. En fait, j'ai vraiment honte, je me sens vraiment faible, j'ai l'impression d'avoir raté ma carrière, puis je suis convaincue que je ne retrouverai jamais la motivation de travailler comme avant parce que j'étais quand même une workaholic, puis je m'identifiais beaucoup par mon travail, puis là, c'est comme si on m'enlevait la chose à laquelle je me rattachais le plus, tu sais. Fait que ça a été une grosse montagne russe, une bonne épreuve dans ma vie professionnelle à ce moment-là. Puis je le voyais comme un échec, alors qu'au final, avec le regard que j'ai aujourd'hui, c'est un cadeau, ça. C'est une des plus belles choses, j'allais dire la plus. Je pense que la naissance de mon fils et sans doute avoir rencontré mon chum, c'est encore plus beau. Mais ça a été un des plus beaux cadeaux qui m'a été donné que de faire cet épuisement-là, parce que ben, c'est ça qui a changé la trajectoire finalement de ma vie à partir de ce moment-là. Il n'y a plus rien qui a été pareil.
Mais ce qui m'interroge, en fait, quand je t'entends, parce que il y a un côté, tu dis, ça te valorisait beaucoup, ça te nourrissait, mais qu'est-ce que ça nourrissait? Parce que ça t'a vidé. Fait qu'il y a quelque chose que
Ouais.
ça nourrissait.
Qu'est-ce que ça nourrissait beaucoup? Ben, je pense qu'au début de ma carrière, j'étais beaucoup nourrie parce que c'était très stimulant. Je veux dire, j'ai toujours été une passionnée d'organisation et de planification, donc ça remplissait mon verre. Le travail que j'avais m'amenait à voyager beaucoup. J'adore voyager. Fait que, tu sais, j'ai voyagé à plein de places au Canada, aux États-Unis, je suis même allée en Europe. Puis, tu sais, ça remplissait un verre, une partie de ce que j'aimais. Mais avec le temps, je pense que c'est comme devenu une passion malsaine. Puis il y avait aussi beaucoup de perfectionnisme là-dedans. Et je voulais beaucoup. Je pense, tu sais, ultimement, je voulais qu'on pense que j'étais la meilleure. Donc j'en faisais toujours plus. Donc c'est ça. Au début, je pense que c'était quand même sain, mais rapidement, c'est comme devenu malsain. Puis aussi, quand je dis que ça me nourrissait, tu as raison de dire qu'à un moment, ça me nourrissait parce que je pense que je m'étais. Tu sais, là, maintenant, je suis beaucoup dans l'introspection, je me pose des réflexions quotidiennement, alors qu'avant, je prenais jamais ce temps-là. Tu sais, ce qui fait que je suivais une route qui était un peu tracée par mon éducation, par la société, puis parce que je voyais dans les films, puis sur les médias sociaux, là, c'était un peu ça. Donc, moi, je pensais que c'était ça, la vie, puis comme j'étais sur cette route-là, puis comme sur papier, tout allait bien, mais comme dans mon corps, puis dans ma tête, ça allait pas bien, dans le fond. Fait que, tu sais, si j'avais été dans l'introspection comme il y a 10 ans, j'aurais sans doute fait des choix différents. Mais là, comme c'était un peu la ligne tracée, ça faisait du sens. Puis comme, tu sais, dans ma tête, fallait quand on grandit, on coche des cases. Puis là, je cochais les cases. Mais comme à chaque semaine, je me disais, tu sais, c'est juste ça la vie. C'est quand que je vais me sentir épanouie? C'est quand que je vais vraiment me sentir heureuse à l'intérieur? Tu sais, j'étais pas complètement malheureuse, là. J'étais en couple, ça allait bien et tout, mais j'attendais toujours le petit quelque chose de plus. Mais il fallait que je comprenne que. Ouais, mais
C'est
fallait
comme une
finalement.
to-do list
Oui! Oui!
d'accomplissements, mais pas de choses faites, mais pas d'accomplissements.
Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Sonia. Puis qu'est-ce que je me disais? C'était. J'en parlais souvent avec mon chum, tu sais. On se disait, ah, ben là, quand qu'on va, là, on est en condo. À un moment donné, ben là, quand qu'on va avoir notre maison, là, il me semble que ça va être mieux. Quand qu'on va vivre à telle place, ça va être mieux. Quand que je vais gagner tant, ça va être mieux. Mais au final, peu importe les escaliers que je montais, les échelons que j'obtenais, c'était jamais mieux parce que, tu sais, il fallait que je comprenne, en fait, puis tu sauras me le dire. Je suis certaine que tu es très consciente de ça avec ton bagage professionnel, mais comme, au final, le bonheur, ça vient de l'intérieur, là. C'est pas comme quelque chose qui nous arrive de l'extérieur comme notre bonheur, tu sais, ça se fait en dedans, là.
Oui, exactement. Mais encore faut-il donner l'espace à tout ça
Oui,
de se
oui.
manifester. Parce qu'on va parler tantôt de manifestation, mais là, tu sais, le parallèle que je fais, c'est que souvent, je dis aux gens, si tu ne laisses pas à la vie le temps de faire ce qu'elle a à faire, tu vas aller plus vite qu'elle, ben, tu vas te retrouver à toujours chercher d'autres choses parce que tu n'es jamais dans une observation de ce qui se passe autour. Tu es toujours la personne ou l'élément qui bouge. Fait
Ouais.
qu'il y a un moment donné, tu t'observes rien si tu bouges tout le temps. Mais tu dis, il y a 10 ans, j'étais dans l'introspection.
Non, j'ai
Donc,
dit s'il y a 10 ans, si j'avais été dans l'introspection. Je
OK,
dirais que ça fait 5 ans
d'accord.
que je suis dans l'introspection, là, mais il y a 10 ans, non, je n'étais pas là-dedans. J'avais supposément pas le temps.
Supposément pas le temps. OK. Tu n'avais pas le temps pour ça. Puis pour toi, c'était justement c'était ça là d'introspection, c'était quoi ta perception de ça?
Ben, en fait, pour vrai, j'ai toujours eu un peu de l'intérêt là-dedans, au sens où, je ne sais pas en quelle année par cœur ça l'a sorti, mais tu sais, le livre Le Secret, là, qui a
Oui,
sorti,
je l'ai lu.
ouais, ben, comme quand c'est sorti, j'avais comme 17 ou 18 ans, et ça m'a vraiment interpellée, puis c'était comme la première fois que j'avais un peu, que je baignais un petit peu, on va dire, dans le, bon, développement personnel slash manifestation, spiritualité, en tout cas, tout dépendant dans quelle sphère on se trouve. Mais j'ai comme un peu baigné là-dedans en lisant ce livre-là. J'y ai cru, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aussi compris l'importance de la pensée positive et tout ça. Puis après ça, ben, c'est juste que je suis rentrée dans le tourbillon de la vie adulte, puis comment on travaille, go, go, go. Puis ça, c'est comme un peu parti, tu sais, c'est comme un peu parti de mon écosystème, si on veut. Donc, tu sais, j'avais pas de jugement par rapport à l'introspection ou au développement personnel, absolument pas. C'est juste que je ne prenais pas le temps de le faire. Puis je pense que dans mon entourage immédiat non plus, j'étais peut-être pas entourée de gens qui étaient là-dedans, ce qui fait que, bon, plutôt que de parler de développement personnel, on parlait des films qu'on avait écoutés, là, comme c'était un
Oui,
peu
oui,
moins, c'était peut-être moins profond, puis c'était correct aussi pour la fille que j'étais à l'époque. Puis c'est ça, puis à un moment donné, ben là, j'ai vraiment comme plongé là-dedans. Mais c'est ça, j'ai plongé vraiment dedans, puis là, j'en suis plus ressortie parce que j'aime trop ça. Tu sais, ça m'aide à m'évoluer en tant que personne.
tout à fait. Tu dis que tu as un peu baigné là-dedans, dans le sens de j'entends de performance, c'était une valeur qui était nourrie familialement ou
Ah oui, vraiment beaucoup.
OK.
Ouais, au niveau de ma famille, là, en fait, c'est bien que tu mettes le doigt dessus. Oui, la performance a toujours été très valorisée dans ma famille et quand même valorisée aussi dans la société nord-américaine dans laquelle on
Oui,
évolue.
oui.
Tu sais, pour moi, le travail, ben maintenant, le travail, bien que c'est une partie de ma vie que je m'identifie quand même beaucoup à mon travail, ça fait quand même pas partie du top de mes valeurs à moi. Mais sauf que je pense que dans ma famille, le travail a toujours été une valeur assez primordiale, ce qui fait que ça l'a teinté un peu l'influence de mes propres valeurs. Puis, tu sais, quand tu es jeune, ben, tu prends les valeurs de ta famille, tu sais, tu t'appropries un peu
Absolument.
les valeurs de la société, de tes amis, puis tout ça, puis tu commences ta vie comme ça. Puis jusqu'à un moment donné où tu prennes le temps de t'asseoir puis de dire, OK, ça, c'est ma valeur et ça, ce n'est pas ma valeur. Donc, mais ça, j'ai fait cet exercice-là, tu sais, au début de la trentaine seulement, ce qui fait que pendant toute ma vingtaine, je me valorisais beaucoup justement dans tout ce qui est performance, dans tout ce qui est, c'est ça, beaucoup de travail et beaucoup être occupé, là, comme être occupé pour moi, ce n'est plus quelque chose que je veux, mais il y en a pour qui c'est important, puis ça fait partie de leurs valeurs, puis c'est parfait, là. Je pense qu'il faut juste, tu sais, trouver nos propres valeurs et comme les honorer complètement.
Absolument. Puis dans le fond, ce que tu as fait au début de la trentaine, c'est que là, tu as ouvert ta valise, puis tu as regardé, bon, mais
Ouais.
ça, c'est moi qui l'ai mis dedans.
Oui.
Ça, c'est quelqu'un qui l'a mis dedans. Ça, c'est, ah, oh, ça me fait, mais ça, non. Décidément, c'est trop petit, là. Ça fait plus.
J'adore
Puis,
l'analogie, c'est exactement ça.
c'est absolu. Oui, parce qu'on arrive, puis on pense que c'est nous qui l'avons construit, cette valise-là, mais bien souvent, le trois quarts de ce qui est dedans, on ne l'a pas choisi, on l'a accepté comme un
Voilà.
fait, comme un élément de vie, comme c'est à moi. Mais tu sais, puis je me reconnais dans ce que tu dis, dans le sens que la journée où j'ai donné ma démission de l'enseignement, à ce moment-là, je n'étais pas coach encore, j'étais thérapeute en relation d'aide
Et j'étais avec mes approches de Reiki et tout ça. L'image que j'avais, c'est que j'étais comme un canard né dans une famille de poules. Mais je m'étais intégrée à la famille de poules. J'avais adopté tout, 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 tout. Mais est super la famille de poules, là. Je les changerais pour rien au monde. Mais j'étais un canard. Fait que là, après ça, quand j'ai commencé à me dire, OK, arrête de te forcer à marcher comme ça. Tu n'as pas les mêmes pattes, tu n'as pas le même corps. Donc, c'est là où est-ce que tu reviens vers toi. C'est l'impression que j'avais, en tout cas, de revenir vers moi. Ce n'est pas toujours facile, ce chemin-là entre les deux.
Non, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Ça demande du
Comment tu
temps,
l'as
ça demande du
vécu?
courage.
Parce que tu l'as vécu, là, à un moment donné, quand tu es arrêté comme ça, parce que ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, ça, tu parles de ton corps qui t'envoyait des signaux. Et c'était quoi ces signaux-là?
Ces signaux-là, en fait, j'avais des signaux depuis comme 2, 3 ans. Fait que, tu sais, je pense que mon arrêt aurait pu être beaucoup plus prématuré, mais finalement, avec le mindset que j'avais à l'époque, je pense que j'ai vraiment étiré l'élastique au maximum. Puis dans le fond, les signaux, il y en avait plein, là. Je veux dire, je m'étais mis à faire un peu plus d'acné. J'avais beaucoup de difficultés à dormir. J'ai toujours eu une excellente mémoire. J'avais de la difficulté à me concentrer. Je pleurais vraiment souvent. Je perdais du poids à vue d'œil. Et ainsi de suite, même que mes règles étaient complètement instables. Comme des fois, je pouvais être deux,
Et
trois
là
mois
là.
sans avoir mes règles. Puis, tu sais, c'est pas parce que je fais beaucoup de sport. Je sais des fois qu'il y en a qui sont beaucoup dans le sport, puis
Oh,
des fois, ça
oui.
crée ça. Non, là, moi, j'étais pas là-dedans. Puis, comme, c'est ça. Donc, tu sais, ça, c'était quelques-uns des symptômes que j'avais. Et, tu sais, mis à part là aussi, je parle pas, j'ai pas parlé du stress, mais c'était omniprésent, là, le stress, là, de mon côté. Là, des fois, je me faisais des scénarios. Fait que, tu sais, c'était un petit peu dans l'anxiété aussi. Ben, un peu beaucoup dans l'anxiété également. Fait que, il y avait toutes ces
J'imagine.
choses-là. Puis comme, qu'est-ce que moi, je me disais quand j'étais dans cette phase-là, c'est que je donne toujours un peu la comparaison, un peu étrange, mais pourtant très claire, que, tu sais, quand on vit un épuisement, quand on a un problème de santé mentale, ça se passe entre nos deux oreilles, donc personne ne le voit. Donc moi, tous les jours, je
Exact.
rentre au bureau avec le sourire. Tu sais, moi, quand j'ai annoncé à mes employés que je m'en allais, comme ils n'avaient pas vu ça venir, mais pas du tout. Mes patrons, un petit peu plus, parce que j'avais comme quand même... annoncé avec mon petit drapeau blanc à quelques reprises que j'avais besoin d'aide, mais tu sais, mes employés, eux, je leur masquais ça. Je rentrais toujours au bureau avec le sourire. Et quand on me demandait comment que ça allait, je disais que ça allait bien. Versus, tu sais, quand tu as un bras de coupé, physiquement, les gens le voient. Fait que, tu sais, si j'avais eu un bras de
Absolument.
coupé, ils se seraient dit, hey, ben là, tu sais, comme prends soin de toi, ou comme même moi, à tous les jours, de voir mon bras coupé, je m'en serais rendu compte là, que j'avais comme un problème de santé. Mais là, vu que je ne le voyais pas, c'était vraiment difficile pour moi de m'avouer vaincue ou de déclarer que j'avais un problème, parce que aussi, quand on veut un épuisement, ou en tout cas dans le problème de santé mentale que moi j'ai vécu, c'est que il y avait des journées que ça allait vraiment bien. Il y avait beaucoup de journées que ça allait pas bien, mais il y avait quand même des journées que ça allait bien. Fait que je me rattachais à ça. Tu sais, je me disais, c'est ça la vie. Tu sais, il y a des fois des journées grises, puis des fois il y a des journées roses, puis c'est comme ça. Tu sais. Fait que j'avais comme accepté cette vie-là. Parce que je pensais que c'était
Comme
ça,
ça.
la vie.
Tu avais comme accepté cet état de fait que, ben, on nous dit qu'il y a des hauts puis des bas, fait que, bon, ben, il n'y a pas
Ouais,
de
c'est
vie
ça. Puis là, je suis dans
parfaite,
un bas.
donc
Ouais.
ça. Ah, wow! Et là, tu accueilles ça comment quand on te dit, Émilie, il faut que tu arrêtes?
Ouais, ben en fait, il faut que ça vienne de nous, hein, parce que dans le fond, moi, en fait, j'avais un rendez-vous chez mon médecin que je reportais toujours parce que j'avais trop peur qu'il me pose des questions puis qu'il m'arrête. Puis là, je voulais pas ça parce que je me sentais tellement indispensable dans mon travail. Puis tu sais, la vérité, c'est que je me sentais indispensable, mais il n'y a personne d'indispensable, tu sais. Fait que je voulais comme pas me rendre là parce que j'avais l'impression de plus en plus les signes étaient clairs. Puis j'étais là, oh, on dirait que je m'en vais là. Fait que je voulais pas aller voir mon médecin. Puis en fait, ça s'est résulté en une conversation à un moment donné que j'ai eue avec une de mes amies au téléphone. Puis comme, je veux dire, il y a plein de gens qui m'avaient un peu ouvert les yeux. C'est juste que là, elle m'a parlé à un moment où j'étais prête à l'entendre. Puis j'ai vraiment comme compris que là, c'était qu'il était temps que je m'arrête parce que le corps, à un moment donné, ne suivrait plus, t'sais. Fait que c'est dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que moi, j'ai pris la décision que là, il en était assez, même si j'aurais pu prendre cette décision-là comme 2 ans auparavant. Puis là, après ça, j'ai appelé mon médecin pour lui dire, là, je pense que je suis en burn-out. Fait que là, après ça, tout le reste a suivi. Mais moi, de mon côté, c'est comme moi qui a... Il a fallu que ça vienne de moi. Puis, après ça, quand j'ai annoncé ça à mon chum en pleurant, j'ai dit « Ah, là, je suis en burn-out comme... » Lui, il savait, là. Il savait. C'est
oui,
juste
oui.
Que, tu sais, il
oui.
faut... fallait que ça vienne de moi.
Exact. Parce que c'est bien rare que quand on annonce ça, les gens ne nous ont pas vus aller avant.
Ben oui, ben oui.
Et ils nous voient aller, ils voient ce que ça, comment c'est exigeant, comment. Puis ils nous voient aussi nous démener avec des excuses X, Y, Z, tu sais? Parce qu'on n'est pas, on est tellement pas prêt à entendre ça. Et qu'est-ce qui se passe pour que de la fille en congé, en burn-out, se retrouve à créer la planificatrice?
Oui, en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ces 2 années-là. Tout d'abord, en fait, lorsque je suis tombée en congé de maladie, je suis, dans les 2 semaines qui ont suivi, tombée enceinte. Et
Oh
comme,
mon Dieu!
ouais, oui.
Okay. Oh là
Donc,
là,
dans
il
le fond,
attendait juste que tu aies le temps de.
ben oui, tu sais, là, on entend souvent comme il y a des femmes qui tombent enceintes quand elles tombent en vacances. Là, c'est exactement ça, parce que pour vrai, ça faisait 6 mois que mon conjoint et moi, on essayait, puis comme clairement, ça marchait pas, là, je veux dire, 1 mois sur 3, j'avais pas mes règles, donc ça fonctionnait pas. Et après ça, en fait, je dis dans les 2 premières semaines, parce que ça doit même être dans la première semaine, parce que je suis allée voir mon médecin, puis là, je veux dire, on a parlé de mon état de santé, mais aussi du fait qu'on essayait d'avoir un enfant, puis il m'a comme fait comprendre, il dit « Faites ce que vous voulez, mais c'est pas un bon moment pour toi ». Ce qui fait que mon chum et moi, on a mis le projet en pause, mais j'étais déjà enceinte, c'est juste que je ne le savais pas. Puis comme c'est
Ah.
vraiment arrivé dans la première ou max dans la 2e semaine. Fait que c'est ça. Mon corps ne voulait pas prendre
Oh
d'enfant
my
alors que
God.
j'étais dans mon ancien contexte. Fait qu'il y a quand même eu ça qui est venu un peu chambouler le tout. En même temps, ça m'a fait un petit projet auquel me rattacher, le fait de savoir qu'elle allait avoir un enfant qui allait venir au monde comme 9 mois plus tard. Fait qu'il y a eu tout ça. Puis, bon, beaucoup de re-questionnements. Je me suis tranquillement, j'ai commencé à me prioriser, chose que j'avais jamais vraiment faite avant. J'ai eu beaucoup de temps pour moi. Donc, tu sais, là, l'introspection a commencé beaucoup. Et ensuite, a commencé mon congé de maternité. Et pendant mon congé de maternité, j'ai choisi de quitter mon emploi parce que j'étais encore à l'emploi, là, de mon ancien employeur. Donc, j'ai
OK.
démissionné pendant mon congé de maternité, en n'ayant absolument rien de prévu après. J'ai toujours su qu'un jour, je voulais être à mon compte, mais je ne savais pas trop comment j'allais, tu sais, qu'est-ce que ça allait être à mon compte. Donc, avant la fin de mon congé maternité, j'ai quitté mon emploi, en ne sachant pas qu'est-ce qui m'attendait. Et là, j'ai comme eu une idée d'entreprise qui finalement ne s'est pas concrétisée. J'ai après ça lancé un blog en janvier 2020 que j'ai appelé sur un coup de tête La Planificatrice. Je me suis dit, je vais l'appeler comme ça, puis je changerai le nom plus tard. Puis finalement, je trouve que c'est un nom qui fonctionne très, très bien avec ma marque puis mon entreprise. Puis c'est ça, puis
Absolument.
c'était. Ce petit blog-là, au début, je me suis dit, en fait, pourquoi j'ai créé ce blog-là, tu sais, je te disais un petit peu plus tôt que avant, j'avais comme littéralement oublié c'était quoi mes passions, puis je ne savais plus trop qu'est-ce que j'aimais. Pendant mon introspection, là, tu sais, dans le fond, tout pendant mon arrêt de travail, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup délaissé l'écriture et c'est toujours quelque chose qui m'avait beaucoup nourri avant. Donc, j'ai dit, ben, je vais créer un blog, puis comme s'il y a 30 personnes qui me lisent, ben, il y aura 30 personnes qui me liront, puis ça sera ça. Fait que sur mon blog, au début, je partageais plein d'affaires, comme j'ai partagé des idées recettes, des conseils maquillage, mais je partageais aussi des trucs sur la planification puis l'organisation. Et moi, ce que j'ignorais un peu dans la vie avant, c'est que moi, je pensais que, tu sais, j'ai toujours évolué, moi, avec des gens qui étaient quand même très organisés, très structurés, en commençant par mes parents, mais après ça, dans mon contexte professionnel, je travaillais avec des planificateurs d'événements puis des gestionnaires d'événements, donc c'est des gens organisés et planifiés. Mes amis étaient un peu dans ce milieu-là, donc moi, je pensais que tout le monde dans la vie était organisé et savait bien planifier les choses, mais comme je me suis rendu compte quand je publiais des articles sur le sujet que j'avais un public et que les gens, comme, avaient vraiment besoin de mes conseils. Donc, ben, rapidement, dans le fond, ben, je dis rapidement, ça ne s'est pas fait si rapidement que ça, mais tu sais, j'ai saisi l'opportunité et tranquillement, le blog s'est transformé en entreprise. Puis, dans le fond, la première année, j'ai vraiment utilisé ma première année comme pour bâtir ma communauté. Puis, après ça, j'ai vraiment commencé à générer des revenus là, à partir de l'année numéro 2.
Wow,
Ouais, fait que
quand
ça a
même,
commencé.
hein?
Ouais, fait que ça a commencé comme ça. Un peu à l'inverse, souvent les gens qui se lancent en affaires, je veux dire, vont se lancer parallèlement avec leur emploi à temps plein, puis quand ils ont assez de revenus, ils lâchent leur emploi. Moi, j'ai fait ça un peu à l'inverse et de façon très, très risquée. Je ne recommande pas nécessairement aux gens de faire ça, mais moi, c'est comme ça que je l'ai fait. C'est que ça, j'ai tout lâché, puis après ça, j'ai créé quelque chose de zéro. Là. À travers la pandémie aussi, il faut dire. Là. J'ai fait ça pendant la pandémie aussi, avec un enfant à temps plein à la maison, puis et un chum qui travaillait de nuit.
Oh mon Dieu! Mais l'avoir su, tu l'aurais peut-être pas, ça aurait peut-être pas eu le résultat que ça a.
Exact, exact. Ouais, c'est
Fait
la beauté de
que,
la
tu
chose.
sais, oui, puis c'est ça aussi, ben ça, c'est. Tu sais, moi, je crois que ce qui doit arriver arrive. Je suis faite comme ça, là, tu sais, que même des fois, mes enfants, ça les tanne, là, parce que je leur dis, ben si c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, ben là, tu me défends pas. Non, je te défends pas, parce que quand même que je te défendrais, qu'est-ce que ça va changer? Hein? Mais c'est ça. Quand attends, tu disais que les gens autour de toi étaient très organisés, tu pensais que tout le monde l'était de soi, là, que ça allait de soi. Qu'est-ce que tu as remarqué qui était l'enjeu le plus grand ou le plus important des gens qui te répondaient ou qui te sollicitaient?
Hey, c'est une bonne question, ça. L'enjeu le plus grand, ben, j'ai envie peut-être de partir avec un enjeu qui touche tout le monde et qui me touchait moi directement, même si j'étais déjà experte en planification avant de lancer la planificatrice, là. En fait, c'est que tout le monde est en manque de temps. Tout le monde manque de temps, tout le monde veut plus de temps, tout le monde court après son temps, alors qu'au final, on a tous suffisamment de temps. Puis là, tu sais, je dis ça, puis je suis certaine que des gens qui ne comprennent pas que ce soit possible de dire qu'on a suffisamment de temps, mais c'est vrai, on a suffisamment de temps. Puis je veux dire, s'il y a une ressource sur Terre qui est bien égale à tout le monde, c'est bien le temps. Là. Je veux dire, peu importe, c'est comme je l'ai dit parfois, là, peu importe on est qui, c'est qui notre background, est-ce qu'on est une élite dans la société ou non, c'est quoi notre provenance, nationalité, religion, le montant qu'on a dans notre compte en banque, tout le monde a 24 heures dans une journée, tout le monde a 168 heures dans une semaine, ça c'est égal. Après ça, oui, il y a peut-être des gens qui ont
Exact.
des moyens supplémentaires qui font qu'on peut avoir plus d'aide, ça je le comprends, mais on a quand même tous la même durée de temps. Donc pourquoi il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas? Ben là, c'est là que j'interviens.
C'est quoi ton truc? Ben, je le sais un peu parce que j'ai commencé mes devoirs là. Mais c'est quoi ton truc numéro un?
Mon truc numéro un, c'est drôle que tu dises que là, tu as fait tes devoirs au sens où j'ai pas. Je ne crois pas qu'il y a une formule magique, au sens où, tu sais, les gens qui viennent vers moi savent très bien que je ne vends pas une stratégie magique qui va tout révolutionner parce que je crois, moi, qu'il y a plusieurs stratégies dans la vie quand on parle de gestion de temps. Il y a plusieurs méthodes parce qu'on est tous différents. Fait que les choses que je te conseillerais à toi, Sonia, personnellement, seraient sans doute très différentes que ceux que je conseillerais à quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi le truc? Dans le fond, tu veux savoir c'est quoi le truc lorsqu'on pense qu'on n'a pas le temps? C'est-tu ça?
Oui, la stratégie numéro un pour sentir qu'on est en possession de ce 24 heures-là dans la journée.
OK, sentir qu'on est en possession de ce 24 heures-là. En fait, je pense que je dirais d'être au fait de nos priorités, de connaître c'est quoi nos priorités, parce que si nous ne connaissons pas nos priorités, c'est là qu'on a l'impression qu'on en a 25 à faire dans la journée, puis que si, c'est ça, lorsque les priorités sont pas claires, on a l'impression que tout est urgent, que tout est important, puis là, on perd le contrôle. Après ça, si vous dites que vos priorités sont claires, puis que vous en avez 25, bien là, il y a peut-être un petit travail à faire ici, là, pour vraiment clarifier c'est quoi une priorité.
Décrémage.
Ouais, c'est ça, mais je pense que, tu sais, lorsqu'on identifie nos priorités, c'est beaucoup plus facile de se sentir en contrôle des 24 heures de notre journée.
Pendant que je regardais tantôt tout ça, j'ai eu une pensée que je te partage parce que j'ai un conjoint qui est féru de finances, d'économie et tout ça. Il adore ça. Et il me répète souvent, puis il répète aux enfants aussi, il faut toujours penser à se payer en premier.
Ouais.
Et là, pour lui, ça fait que tu reçois, tu observes, tu prends ce qui est nécessaire à ton économie, à ce qui va fructifier, si tu veux, puis ça, tu le places, puis après ça, tu as le reste. Puis quand je t'écoutais aussi tantôt, puis tu disais, je me suis oubliée. Puis en même temps, dans les trucs qu'on a à faire avec l'horaire idéal et tout, il y a où veux-tu placer ton, ce qu'on appelle ton temps perso, ou en anglais, ils disent le me time, où veux-tu mettre ton temps à toi, ton temps cadeau. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça, de se payer en premier.
Absolument, totalement. Puis ça, pour se payer en premier, qu'est-ce qu'on fait si on le planifie? Puis, je veux
Ouais.
dire, je le fais depuis toujours parce que mon père aussi m'a toujours enseigné ça, de se payer en premier. Donc, au niveau des finances, je l'ai
OK.
toujours fait. Et si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire. Mais je l'ai toujours fait. Mais avant, je ne le faisais pas avec mon temps. Puis, je veux dire, le temps, là, c'est super facile, ça se compte, là. C'est des heures, c'est des minutes, c'est des secondes. C'est aussi facile à compter que de l'argent. C'est juste que j'ai juste le mot en anglais, là, la currency, bref,
Oui, la monnaie,
la
ou en tout
monnaie
cas
est
le...
différente, dans le fond. Donc, c'est super facile, là, de compter notre temps, de budgéter notre temps. Donc, de reprendre cette expression-là et de le dire pour le temps, c'est parfait. Puis, pour arriver à se payer en premier lorsqu'on parle de temps, ça passe par la planification parce que si je ne me mets pas à l'horaire en premier dans mon agenda, ben, les autres vont toujours avoir le dessus sur moi. Puis après ça,
Et je crois...
ça fait du pouce avec qu'est-ce que j'ai dit avant, tu sais, mon truc, tu sais, je parlais de priorité. Après ça, est-ce que prendre soin de vous fait partie de vos priorités? Peut-être que oui, peut-être que non. T'sais, si c'est toujours les autres qui sont vos priorités, à vous de voir si vous êtes à l'aise avec ça. Puis si c'est le cas, ben, tant mieux. Là, à ce moment-là, peut-être que vous voulez laisser votre horaire libre pour les autres et vous allez passer après. Mais au final, t'sais, si vous voulez vous prioriser, ben, vous devez vous mettre à votre horaire, vous devez vous planifier avant que tout le reste prenne le dessus, parce que sinon, le reste va toujours prendre le dessus.
Absolument, absolument. Puis l'autre travail à effectuer aussi, c'est de travailler sur le fait de se l'autoriser, de savoir pas qu'on le mérite, mais qu'on y a droit. Parce que
Ouais,
quand on est au je le mérite-tu, je le mérite pas, puis là tu t'observes, puis là l'autre en fait bien plus, puis ma voisine, puis je suis pas pour faire ça parce que, etc., etc. Donc, c'est sûr qu'il y a ce j'y ai droit. C'est pas juste quelque chose que je mérite quand j'ai fait 64 heures dans ma
ah oui,
semaine.
tellement. Puis attendons pas la permission non plus, qu'on nous donne la permission là, de prendre du temps, là, comme prenons-le. Puis oui, arrêtons de penser qu'il faut le mériter.
Exact. Quel mot, hein? Judéo-chrétien. Ah. Et là, on est arrivé au moment où je veux t'entendre parler de comment la manifestation vient enrober ou nourrir tout ça, qui donne comme, je ne sais pas, ça y donne un petit twist différent, je trouve.
Hey, oui, puis tu sais, on en a parlé, ben avant que tu commences à enregistrer l'épisode, on
Oui.
parlait de ça justement, à quel point ben, j'avais fait un épisode qui m'a tellement sorti de ma zone de confort, l'épisode 19
Oui.
du podcast 168 heures, où j'ai accepté le défi d'une amie qui m'a dit « parle de manifestation sur ton podcast » parce que lorsque je suis pas devant un micro avec des amis, j'aime beaucoup parler de ça, puis ça fait partie de ma vie, mais comme d'être public avec ça, j'avais vraiment un inconfort parce que ben moi, je suis très méthodique, je suis très, tu sais, je veux dire, j'ai évolué beaucoup dans l'énergie masculine. Je partage des trucs qui sont concrets, précis, étape par étape. Puis là, écoute, quand on s'en va parler de manifestation, ça sonne très ésotérique, c'est vraiment de l'énergie féminine à l'état pur et c'est tout sauf concret. Donc, j'avais de la misère à me positionner, en fait, par rapport à la manifestation, alors que je m'identifie comme étant la planificatrice, puis que je parle de trucs très, très structurés. Mais oui, en fait, ça fait vraiment partie de ma vie depuis bientôt 2 ans, je dirais, la manifestation. Tu sais, tout ce qui est un peu spiritualité moderne, développement personnel, ça m'a quand même toujours intéressée, bien que pendant les 10 premières années de ma vie adulte, que j'y accordais pas vraiment d'attention, si on veut. Mais moi, ouais, depuis 2 ans, ça me titillait beaucoup, la manifestation, puis j'ai eu envie d'en apprendre davantage, ce qui fait que j'ai fait une formation avec une Américaine, une formation de 20 semaines sur un peu la manifestation, comment apprendre à manifester. J'ai lu un paquet de livres aussi sur le sujet et ben ça marche, ça marche. Et en fait, la raison pour laquelle aussi ça me rendait inconfortable d'être publique avec ça, c'est que puis même, une des choses qui me challengeait beaucoup quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, En gros, la manifestation, c'est, tu sais, si je résumais ça en une phrase, c'est vraiment comme de rendre réel qu'est-ce qu'on a dans notre tête. T'sais, on a une vision, on veut quelque chose, puis la manifestation, c'est tout simplement de rendre qu'est-ce qu'on avait dans notre tête, de le traduire dans le monde physique, finalement, dans la réalité. Mais moi, j'avais un inconfort parce que la manifestation passe beaucoup aussi par la confiance absolue qu'on a en notre rêve. Mettons, là, t'sais, mettons, je peux penser à quelque chose, j'aimerais ça que ça se réalise. À partir du moment où on a pleinement confiance que ça va se réaliser, c'est comme s'il y a une énergie hyper positive qui va émaner de nous, puis comme, je veux dire, nos vibrations vont attirer les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Ça peut prendre un certain temps, mais ça va arriver, tu sais, ça va arriver au bon moment. Et moi, en fait, lorsqu'on nous enseigne la manifestation, moi, ce que j'ai appris, c'est beaucoup, ne focus pas sur le comment tu vas t'y rendre, fais juste focusser sur ce que tu veux. Mais moi, ça venait vraiment me challenger parce que pour moi, le comment se rendre à un objectif, ça passe par la planification. Donc moi, j'étais là, oui, mais moi, je l'ai, le comment, je sais, il faut que je planifie. C'est peu importe l'objectif que je veux mettre en place, j'ai toujours une planification qui va avec ça. Mais il a fallu quand même que j'apprenne à lâcher prise et à me dire, c'est correct si ça n'arrive pas comme je le veux. C'est correct si ça n'arrive pas comme je l'ai planifié. Donc ça m'a vraiment appris à mettre la pédale douce un peu sur la planification au sens où je suis encore 200% convaincue que la planification est un outil exceptionnel, mais la manifestation aussi, c'est un autre outil. Puis je pense que les deux ensemble, ça peut devenir pas mal puissant. Fait que ça a été beaucoup d'apprentissage, puis comme beaucoup de laisser aller au niveau de l'ego aussi, là. Fait que, mais c'est vraiment fascinant. Puis c'est ça, c'est la manifestation existe depuis des centaines d'années, mais on recommence à en parler un petit peu plus avec justement le mot manifestation. Mais tu sais, c'est pas nécessairement. T'es pas obligé d'être assis en indien sur un tapis de yoga puis d'avoir les mains en Bouddha pour comme faire de la manifestation. C'est un peu l'image que j'avais avant, là. Mais ouais, fait que ça fait partie de ma vie maintenant.
Oui, puis je pense que l'autre chose aussi, c'est que c'est pas non plus d'être assis à penser qui va amener ce que tu veux manifester.
Exact.
Mais c'est quand c'est complètement en accord avec tes valeurs, avec ce que tu as besoin, en fait, parce que tu pourrais manifester un très gros Hummer, mais au final, là, ton Hummer ne serait pas du tout la bonne affaire pour toi. Mais
Non.
tu peux le manifester, puis peut-être que. Mais en même temps, parce que je me rappelle très bien, on a parlé du secret tantôt, j'avais ça, moi, en 2006 ou 2007, j'avais ça collé dans ma pharmacie de salle de bain, mon chèque d'un million, là, que j'étais pour recevoir dans quelques jours, le chèque de l'abondance, tu sais, puis tu y penses, puis en principe, ça avait fonctionné, j'aurais plus de lunettes aujourd'hui, parce que je dis que j'ai manifesté, là, puis je forçais, mais ce n'est pas de forcer la manifestation, c'est d'accueillir avec confiance que ce à quoi je rêve, ce que je souhaite voir se manifester justement, est en train de se créer pour moi. Il y a quelque chose dans ça, tu sais, qui est plus grand que nous, là, si on peut le dire comme ça, puis qui se crée plus ou moins dans un. On a parlé d'énergie, mais ça se crée dans notre espace d'énergie.
Absolument.
Parce que matériellement parlant, tu ne vois pas quatre machines qui sont en train de fabriquer ce que tu veux, là. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Mais c'est dans cette disposition intérieure.
Absolument. Absolument. C'est vraiment ça.
Vraiment un état.
C'est vraiment un état d'esprit. Puis comme avant, moi, je pensais que la manifestation passait par un rituel qu'il fallait que je fasse à tous les jours, mais comme. Oui, on peut faire un rituel, puis comme tant mieux si ça nous apporte une meilleure énergie, mais au final, c'est continuel. On est continuellement en train de faire des choses, on est continuellement en train d'avoir des pensées, donc on est continuellement en train d'émaner une énergie quelconque, des vibrations quelconques, donc c'est un travail continuel. Puis je pense que, tu sais, pour reprendre ton exemple de chèque, moi aussi, j'ai déjà fait un chèque avec un montant exorbitant. Puis comme, je me disais, ça va marcher, mais au fond de moi, j'y croyais pas, là. J'y croyais pas que j'allais pouvoir, en un an, faire un million. Tu sais, j'y croyais pas. Fait que c'est sûr que ça allait pas arriver parce que c'était ça, comme, que j'envoyais comme message. Je veux ça, mais j'y crois pas parce que je me sens pas capable, tu sais. Je vois pas comment c'est possible. Et si j'avais une confiance absolue, ben qui sait, peut-être que j'aurais eu mon million ou pas. Parce
peut-être.
Qu'après ça, c'est peut-être pas de tout ça que j'avais besoin. T'sais. Des fois, on pense qu'on a besoin de quelque chose, mais comme je l'apprenais dans ma formation, c'était faut toujours garder en tête comme quand tu envoies un message de ce que tu veux avoir, ben si je veux avoir ça ou mieux. Puis tu sais, oui, on peut demander je veux avoir un million de dollars ou mieux, mais le ou mieux, ça ne veut pas dire que ça va être 2 millions. C'est peut-être que tu vas avoir beaucoup moins d'argent, mais que tu vas enfin te sentir épanoui. T'sais, c'est peut-être de tout ça que tu as besoin au final, là.
J'aime le ou mieux. J'aime le ou mieux qui n'est pas le ou plus.
Ouais.
C'est une très belle nuance. Wow! C'est vraiment le fun. Puis finalement, parce que moi, quand j'ai entendu, j'ai écouté cette là où tu te mettais un. On l'entendait dans ta voix, là, que
Hey,
tu te
oui, hein,
mettais
j'étais
un
mal à
peu en.
l'aise, hein?
Oh, mais c'était drôle! Drôle de. Parce qu'en fait, c'était tellement. C'est tellement bien livré. Tu te sentais mal à l'aise, comme un peu intimidé par cette. Ou peut-être plus inconfortable, je dirais. C'était vraiment un sujet qui. Puis dans ça, tu parles de manifestation, comment la manifestation. Et c'est d'ailleurs là que j'ai dit, ben, j'ai arrêté dans le sentier, j'ai dit, bon, ben, moi, je manifeste que Émilie, elle vient sur mon podcast. Puis là, j'ai écrit ce message-là. Mais tu vois qu'il y avait une action parce que tu parles de Jenna Kutcher.
Oui.
Puis on en a parlé un petit peu encore tantôt parce que je t'ai mêlée dans mes références, là. Mais tu sais, Oprah puis Jenna, ça se ressemble. Alors, elle, c'est quelqu'un que tu lisais, c'est ça?
Oui, en fait, j'étais en train de lire son livre à ce moment-là, sauf que elle a un podcast, un gros podcast aux États-Unis et je l'écoute, ça doit faire 4 ans que j'écoute son podcast, là, comme ça doit être le podcast que j'écoute le plus. Et c'est ça, et elle a écrit un livre et je me suis inscrite à son book club, ce qui fait que j'ai pu recevoir son livre en avance, puis comme elle avait vraiment une grosse stratégie de lancement derrière son livre. Et étant donné que je faisais partie de son book club et que j'avais accès à son livre avant qu'il soit disponible dans les librairies, à un moment donné, j'ai reçu un courriel. Moi, j'ai reçu un courriel de son équipe là, qui disait hey, envoyez-nous si vous voulez un court témoignage audio de 2 minutes, puis s'il est pris, vous allez être dans un de ces épisodes de podcast, c'est pas en entrevue personnelle, mais comme mon témoignage allait être mis dans son podcast là, avec d'autres. Mais elle a une méga communauté, cette fille-là. Fait que là, vite comme ça, là, comme quand j'ai reçu le courriel, qu'est-ce que mon corps m'a dit en une demi-seconde, c'était tu fais l'audio et tu t'en vas, tu lui envoies, puis ça va fonctionner. Ça, là, comme en une demi-seconde, j'ai tout ressenti ça, j'ai tout eu cette certitude-là. Mais après ça, qui est venu me parler sur mon épaule? Mon ego, mon ego qui était pas bien loin. Là, il m'a dit, écoute, ça sert à rien, là, perds pas ton temps avec ça. D'un, comme tu vas avoir un accent parce que tu parles, parce que t'es francophone, ça sera pas beau. Deuxièmement, j'étais en vacances, j'étais en Floride avec ma famille. Là, mon ego me disait, tu peux juste décrocher, arrête de penser au travail. Après ça, t'as même pas ton vrai micro, ton son va être médiocre parce que là, tu vas le faire avec tes écouteurs, ça sera pas bon. Après ça, elle a une communauté immense, tu seras jamais choisi, il y a ben trop de monde, bla, 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 bla. Et là, comme je suis passée à un cheveu d'écouter mon ego, mais vu que j'étais beaucoup dans mon énergie de manifestation, parce que c'est vraiment, j'étais encore dans ma formation de 20 semaines, là. Fait que là, t'sais, je comprenais ce qui se passait. Je comprenais que c'était mon ego qui me parlait, puis j'avais aussi compris que c'était mon instinct qui m'avait dit au début, comme tu le fais. Alors, j'ai choisi de remercier mon ego de m'avoir parlé, mais que je n'allais pas l'écouter. Et j'ai écouté mon instinct, je l'ai fait. Et je pense, tu sais, normalement, moi, j'aurais été du genre à comme m'enregistrer 10 fois, là, pour trouver le meilleur message. Je pense que je me suis enregistrée 2 fois max. J'ai envoyé ça, ça durait 2 minutes pile. Le son était vraiment ordinaire, mais comme j'ai envoyé ça. Et à partir du moment où j'ai envoyé, c'est comme si j'avais la certitude en dedans que j'allais être sur le podcast. Je le savais, c'était comme une certitude. Après ça, bon, j'oublie un peu tout ça. Puis la date, comme quelques semaines plus tard, quand que l'épisode sort le matin, avant même d'écouter l'épisode, Jenna Kutcher met toujours un résumé sur son blog personnel à elle. Fait qu'avant d'écouter l'épisode, je m'en vais sur le blog et qui n'est pas le premier nom que je vois dans son résumé, j'ai vu mon nom, Émilie Vien. Fait que c'est ça. Alors, mon témoignage a été publié sur son podcast. Donc, je peux dire que je suis allée sur le podcast de Jenna Kutcher, même si c'était pas même si c'était pas en entrevue personnelle. Mais quand même, tu sais, ça, je trouve que c'est de la manifestation. Mais si j'avais laissé mon ego parler. Tu sais, avant, moi, j'ai toujours écouté mon ego dans la vie, là, avant. Là. Si j'avais laissé toute la place à mon ego, je ne l'aurais jamais envoyé, donc ça ne serait jamais arrivé. Donc, tu sais, je pense
C'est
que...
très intéressant que tu dises ça parce que combien de fois les gens vont dire, mais comment ça? Moi, ça m'arrive jamais. Mais on sait bien, moi, ça m'arrive jamais. Puis toi, tu as fait ça. Puis moi, ça m'arrive jamais. Mais ça t'arrive pas, t'as-tu demandé? Ah,
Ouais,
tu
puis est-ce que
sais,
tu
il y a
poses des
quelque
actions
chose
aussi qui sont
là-dedans.
alignées?
Exact. Exact. Mais tu sais, c'est ça parce que l'ego fait que, ben lui, son premier, puis tu le sais, sa première raison d'être, c'est de nous protéger.
Exact. C'est pas pour mal faire, là,
Donc,
mais c'est ça. C'est ça. Je sortais de ma zone de sécurité en faisant ça, mais au final, c'était ultra positif et ça m'a permis de grandir. Donc, une chance que j'ai écouté ma petite voix.
absolument. Puis, si je te demande pour rapper un peu tout ça, comment la planificatrice s'est trouvée bonifiée par cette ouverture à la manifestation, à écouter cette voix-là?
Je pense que ça l'amène vraiment une belle nuance à ma niche, au sens où moi, c'est, je parle de planification, d'organisation, de productivité, d'efficacité. Ça peut sembler très rigide et très contraignant, même pour certaines personnes, mais je pense que ça l'amène beaucoup de douceur et une belle nuance, vraiment, là, parce que tu sais, moi, je parle beaucoup aussi de réalisation d'objectifs. T'sais, j'ai des clients qui viennent vers moi pour atteindre des objectifs, pour performer. Toujours sans s'épuiser, là, bien entendu, mais ça
Oui.
l'amène vraiment une autre perspective. Puis ça fait que j'aide, je pense, mes clientes et moi-même, comme oui, j'aide d'autres personnes grâce à ça, mais comme la première personne que j'aide, c'est moi-même, c'est que ça m'apprend beaucoup, beaucoup à être beaucoup plus à l'écoute de mon corps, être beaucoup plus à l'écoute de mon intuition. Puis comme d'un fois, tu sais, pour donner un exemple, dans la dernière année, j'étais très investie dans un projet. Avec une autre collaboratrice, j'étais super investie. On avait un planning précis. Puis au début, je le filais. Mais là, plus l'année avançait, moins je le filais, ce projet-là. Mais je me permettais pas de lâcher ça parce que ben, je m'étais commise à mon amie. Et en plus de ça, j'aime beaucoup cette amie-là. Fait que je voulais comme pas que ça brise quelque chose. Mais plus les mois avançaient, moins je le filais. Mais moins je le filais, plus on se rapprochait de la date de livraison de notre projet. Et finalement, j'ai vraiment écouter mon corps, puis comme cet été, j'ai comme juste dit, garde, je débarque. Je débarque, puis au final, elle a super bien compris, là, puis... Mais tu sais, je serais pas bien aujourd'hui si je m'étais pas écoutée. Donc, tu sais, je pense que ça l'amène, oui, une valeur, parce que ça l'amène une nuance dans ce que j'enseigne, dans ce que je crée comme contenu, mais d'abord et avant tout, moi, ça me permet de mieux gérer mon entreprise, puis d'être mieux dans la peau de qui je suis, finalement. T'sais, parce que si moi, je suis pas bien dans ce qui je suis, ben mon entreprise, c'est la prolongation de moi-même. Fait que, t'sais, ça va paraître en quelque part, puis ça va faire que mon entreprise sera pas aussi alignée avec moi-même. Je pense que je dirais ça.
Qui a monté, puis je me trompe peut-être, mais je vais te le nommer parce que ce qui a monté, c'est ça te permet, je crois, cette façon d'aborder les choses, de te protéger de la performance. Parce que c'est comme si ça ne repose plus que sur tes épaules, mais ça repose sur tes épaules et sur ce qui te porte.
Hey, c'est bien beau ça. J'aurais jamais été capable de verbaliser ça de cette façon-là, mais ça fait tellement de sens.
Ben, je pense que ça t'a enlevé une charge.
Hey, ça fait vraiment du sens. Ouais, ben oui, mais j'aurais vraiment pas été capable de le verbaliser ainsi, mais ça fait vraiment du sens, ouais. Ouais.
Mais ça va donner de la légèreté à tout ça.
Absolument,
C'est plus c'est
absolument.
léger, plus ça se
Oui,
propage.
parce que autant qu'on parlait tantôt de avant mon burn-out, tu sais, que j'étais vraiment dans la performance, puis aujourd'hui, je ne veux plus revivre de burn-out. C'est sûr que non, mais je veux quand même performer. Tu sais. La performance, je veux dire, je pense que j'ai eu une relation amour-haine assez forte avec ce mot-là pendant quelques années, là, après mon épuisement, mais aujourd'hui, j'affirme haut et fort encore que je veux performer. Là. Je ne veux pas juste livrer à moitié, je veux performer. Mais ce que tu dis, si ça fait vraiment du sens, c'est comme si ça m'enlève quand même une charge de ça, exactement.
Oui, ça partage
Ouais.
la ouais. C'est comme si il n'y a pas que toi qui es imputable, là, que ça marche ou
Ouais,
ça ne marche
ouais,
pas. Il y a toi, puis
ouais.
il y a ce qui est le mieux pour toi. Puis ce qui est le mieux pour
Exactement.
toi,
Ouais.
est-ce qui est porteur.
Exactement. Oh, c'était beau, ça.
Ben, ça nous fait une pas pire fin, hein?
Ben oui, c'est une excellente conclusion.
Alors, comment est-ce que les autres là, qui sont jaloux et qui se disent comment ça, Sonia l'a, elle, puis moi, je ne l'ai pas, ben, parce que je l'ai commandé, puis je l'ai reçu en criant ciseaux ou à peu près. Alors, c'est sur ton site, Émilie, la planificatrice.
Oui, exactement. Donc, laplanificatrice.com, on peut trouver en fait un tas de trucs, notamment dont tu en fais mention aussi si bien, l'agenda. Donc, l'agenda de la planificatrice, il y a une version datée à chaque année. Il y a aussi une version non datée, là, si jamais il y en a qui nous écoutent en rediffusion un peu sur le tard et que la version datée est écoulée. Il y a toujours une version non datée sur 6 mois qui est disponible. Donc, un super bel outil imprimé. Moi, j'ai vraiment créé l'agenda que je ne trouvais pas sur le marché. Puis, en tout cas, avoir les commentaires, je pense que je comble un. En fait, pas moi, mais que cet agenda-là comble un besoin non comblé dans les agendas francophones. Sinon, je suis très présente aussi sur Instagram, sur Facebook. J'ai une infolettre éducative à tous les mercredis également pour celles qui ont envie que je vous dise un petit coucou dans la boîte courriel. Puis, j'aurais peut-être envie de compléter aussi en disant que j'ai un paquet d'outils gratuits. Bien, on a parlé du podcast, mais il y a le podcast 168 heures aussi, qui est une super belle plateforme où on est un peu en formation continue avec moi aux 2 semaines. Et puis, ouais, où je m'en allais, en fait, c'est que toute info, si vous ne savez pas trop par où commencer avec les outils gratuits et tout, j'ai une super belle bibliothèque d'outils gratuits que vous pouvez télécharger. Donc, tu sais, plutôt que de télécharger à la pièce plein, plein d'outils, moi, j'ai créé une plateforme, on s'inscrit une fois, puis après ça, on a un mot de passe pour accéder à. Là, présentement, j'ai plus d'une douzaine d'outils PDF à télécharger, puis au fur et à mesure que j'en rajoute, bien, automatiquement, les abonnés y ont accès. Ça, pour y avoir accès, on se rend sur laplanificatrice.com/ bibliothèque sans accent. Et puis, c'est ça, laplanificatrice.com/bibliothèque. Et vous vous inscrivez, vous avez accès, comme par magie, à plus de 12 outils gratuits en lien avec la planification, la gestion du temps et la productivité.
Et c'est tout beau, tout bien, une mise en page extraordinaire.
Merci.
C'est vraiment très, très bien. Alors, ma chère, ben merci. Merci beaucoup d'avoir dit oui à mon élan de te
Ben,
contacter.
merci à toi de l'avoir manifesté.
Ah, j'ai envoyé ça.
Ah.
Puis tu répondais oui ou non, mais en tout cas, j'avais agi en conséquence d'avoir au moins une réponse.
Exact.
Alors, merci beaucoup. Et puis, ça va être déposé sur mon site aussi, mon podcast, puis éventuellement, ça sera partagé aussi sur les réseaux sociaux.
Magnifique.
Alors, on se laisse ici. Merci beaucoup, Émilie.
Merci.
Merci d'avoir été là encore pour ce balado. Vous pouvez continuer à m'écrire ou à me joindre via mon site internet soniatremblay.ca. Au plaisir d'échanger avec vous.